sur la place des Terreaux à Lyon, une tête et deux mains dépassent d'un carcan à la vue de tous. Sur l'épaule, une fleur de lys marquée au fer. Les gens lancent des regards méprisants, dégoûtés ou curieux au panneau qui trône juste en dessous du pilori. Ils peuvent y lire « Fille soi-disant hermaphrodite, profanatrice du sacrement du mariage ». Cette fille soi-disant hermaphrodite, c'est Anne Jean-Baptiste Grandjean.
Ah. Mais non, il n'y avait pas.
Wouah. Radio Wouah, il n'y a pas. Le podcast qui revient sur ces gens qui n'existaient pas à ces époques-là. Attention. Dans cet épisode, je vais utiliser des termes du XVIIIe siècle qui sont jugés négatifs ou offensants aujourd'hui. Par ailleurs, il est question d'anatomie des parties intimes. Si ces sujets vous mettent mal à l'aise, n'allez pas plus loin. Anne Grandjean naît en novembre 1732 à Grenoble, de parents modestes, Jean-Baptiste Grandjean et Claudine Courdier. Elle est reconnue fille à la naissance et est baptisée comme telle. Vers ses 14 ans, Anne se rend compte qu'elle est plus attirée par les femmes que par les garçons. En effet, ces derniers la laissent complètement de marbre, ce qui paraît anormal pour l'époque. Son père consulte son confesseur. Le verdict est sans appel. Anne est un garçon. Elle doit quitter ses habits de femme pour ceux de garçon. Parenthèse. Sous l'Ancien Régime, l'expression du genre et du sexe, vu que les notions ne sont pas forcément distinctes, se fait par les vêtements. Les hommes portent des tenues masculines, les femmes des tenues féminines. Le travestissement est sévèrement réprimandé. Fin de la parenthèse. Alors que Anne devient Jean-Baptiste, que le père l'appelle « mon fils » et lui confie des tâches dues à son genre, la ville de Grenoble, alors petite ville, ne s'émeut pas de la situation, toute bizarre soit-elle. La reconnaissance des parents sur le changement de sexe de leur enfant paraît légitimer la situation. Grandjean a plusieurs amantes. En 1761, il épouse Françoise Lambert. Et tout semble bien se passer. Il quitte Grenoble pour Chambéry, puis s'installe à Lyon pour travailler dans le textile. Les choses se gâtent quand une ancienne amante de Grandjean découvre qu'il est marié. Elle se précipite chez l'épouse pour la prévenir. Son mari est hermaphrodite. Françoise consulte son confesseur. Elle doit s'éloigner de Grandjean. Alors que le couple veut assurer sa bonne foi devant les offices religieuses, la justice est saisie. Les faits sont graves. Profanation du sacrement du mariage. Le cas est jugé et en 1764, Grandjean est condamné à une peine sévère et honteuse. Carcan, marquage au fer rouge de la fleur de lys et bannissement. D'un certain point de vue, il s'en sort bien. En effet, c'est la mort et le bûcher qu'il aurait pu encourir. Par ailleurs, il doit revenir à ses habits féminins, ne plus revoir son épouse, ni fréquenter de femmes. Grandjean fait appel de la décision au Parlement de Paris. Françoise Lambert donne des informations sur sa vie intime avec son mari. La situation lui convenait fort bien malgré l'absence d'enfant. Grandjean subit alors un examen médical pour savoir de quoi il retourne concernant ses parties génitales. Il faut déterminer s'il est homme ou femme. Car bien que le terme hermaphrodite permet de désigner certains individus, il faut néanmoins savoir laquelle des fonctions reproductives fonctionne en cas de présence des deux sexes, pour déterminer si Grandjean est un homme ou une femme. Les médecins décrètent qu'il s'agit d'une femme avec un clitoris de taille anormale, ce qui a entraîné la confusion. Le mariage est annulé. Les accusations de profanation du mariage sont infirmées. Mais l'interdiction concernant Françoise et les autres femmes est maintenue, comme son obligation de reprendre une tenue féminine. Dans le cas contraire, je ne vous fais pas un dessin. J'ignore hélas ce qu'il est advenu de Jean-Baptiste ou Anne Grandjean par la suite. Au XVIIIe siècle, le mot intersexe n'existe pas. Soit on est femme, soit on est homme. Pas d'alternative possible. La présence des hermaphrodites pose des problèmes juridiques, surtout quand la seule présence des organes génitaux ne peut pas déterminer le sexe de l'individu. Le cas de Grandjean est emblématique à plusieurs égards. Déjà, il atteste de la présence et de la reconnaissance des intersexes, mais il pose la question de la détermination ou de l'autodétermination. En effet, jamais Grandjean ne semble choisir le genre qui lui correspond. Ce sont les institutions juridiques et religieuses, quand ce ne sont pas les mœurs de cette époque qui lui imposent un genre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez m'offrir un petit thé sur ma page Ko-fi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux personnages hauts en couleur. À 10 chats !